On s'évade, on s'enfuit, viens, on s'aime dans ce dessin.
Une heure sur Phare FM, vous écoutez la nuit autrement sur la radio autrement. J'espère que vous allez bien, on est ensemble jusqu'à 5h.
La Bible dit:
le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
You're making me laugh at strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Complicated sur Phare FM, il est une heure passée et on est toujours ensemble. J'espère que vous allez bien. Si vous ne dormez pas, bon courage si vous travaillez. Et si vous ne dormez pas, si vous êtes dans l'insomnie, là, bon courage aussi. Merci de rester avec moi, on va écouter de la belle musique et puis un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer tout à l'heure. Ça vaut la peine, c'est le thème de Jean-Marie Ribet. Il va nous accompagner avec des mots d'encouragement dans Pain de Vie. Tout de suite, de la musique, Ronan Keating, When You Say Nothing At All, suivi de Leandro Gonzalez, Jamais Seul, avec Phare FM, vous n'êtes jamais seul. On est ensemble jusqu'à 5h. Merci de rester à l'écoute de la radio Autrement.
Minuit 5h, la nuit Autrement,
avec Mireille.
How you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Crowd.
rien ne pouvait me sauver de ce malheur qui me poursuivait. J'étais angoissé, j'étais désespéré. Pourtant déjà là, j'étais protégé. Tu es devenu ma raison pour chanter, celle qui me pousse chaque jour à me lever. Dans ma solitude, tu t'es révélé pour me faire découvrir l'amour parfait. Jamais seul, jamais seul, porque lo has prometido, no me dejarás. Jamais seul, jamais seul, porque hasta el fin del mundo tú conmigo vas. Jamais seul, no, jamais seul, porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, jamais seul, porque siempre me amaste y siempre me amarás. Hoy sé que nunca solo me has de dejar. Pensé que nadie me iba a salvar de este vacío, de esa soledad. En mi corazón solo había oscuridad. Me faltabas tú, tu amor, tu verdad. Hoy tengo esperanza y te quiero cantar. Mi alma ha encontrado la felicidad. Me lo has dado todo, me llenas de paz. Gozando tu amor, mis miedos se van. Jamais seul, jamais seul, porque lo has prometido, no me dejarás. Jamais seul, porque hasta el fin del mundo tú conmigo vas. Jamais seul, no, jamais seul, porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, porque siempre me amaste y siempre me amarás. Solo me has de dejar. Jamais seul, porque nunca has fallado y nunca fallarás. Jamais seul, no, jamais seul, porque siempre me amaste y siempre me amarás. Hoy sé que nunca solo me has de dejar. Hoy sé que nunca solo me has de dejar.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
Et chaque année, il y a l'athlète du siècle. Ce qui me frappe souvent, c'est à la fois l'impression qu'on a face à ces personnes et face à ces événements, on a souvent l'impression que ce qui s'est passé avec eux est vraiment incroyable, au-dessus de tout. Et d'avance, on n'a pas le recul pour faire attention que dans 6 mois, dans 1 an, cette personne-là, peut-être, on n'y pensera même plus du tout, il sera complètement dépassé, et quelqu'un d'autre aura fait la même chose, ou aura fait mieux, etc. C'est, par exemple, je sais pas, au moins une équipe de foot qui est championne du monde, je sais pas, je pense à rien de particulier, mais imaginons une équipe de foot qui serait très très forte, bon, et puis 4 ans après, ben, c'est une autre, et puis les précédents n'y pensent plus beaucoup. Je me souviens une fois, une interview que j'ai trouvée intéressante. On demandait à un ancien très grand footballeur, mais alors d'il y a au moins une ou deux générations, quoi, hein, et qui en son temps avait été très très bon, et le journaliste lui demandait, lui dit, est-ce que vous pensez que les équipes d'aujourd'hui jouent mieux que de votre temps? Autrement dit, si on faisait jouer l'équipe dans laquelle vous étiez à ce moment-là champion et une équipe de maintenant, est-ce qu'ils jouent mieux que ce que vous faisiez à ce moment-là? Et j'ai vu tout de suite que la question importunait cet ancien champion, et qu'elle l'agaçait. Et tout de suite, il a répondu que non, non, les équipes d'aujourd'hui ne jouent pas mieux, on jouait aussi bien à son époque, etc. Donc, rien que le ton montrait tout de suite que, en tout cas, ce qu'il n'y avait pas dans sa réponse, c'était de l'objectivité, quoi. Ça, c'était sûr. Il était piqué. Peut-être qu'au moment où il a remporté des grands trophées, sur le coup, il s'est dit, ça, ça vaut vraiment le coup de vivre. Hein. Bon, 10 ans après, même ses amis, les gens, les journalistes, bon, on s'en souvient plus, quoi. Hein. Alors, est-ce que finalement, avec du recul, est-ce que même un exploit, ça donne vraiment une valeur à une vie? Est-ce que ça vaut le coup de vivre pour un exploit? Je sais pas, c'est une question. Quand je vois combien d'anciens grands, à la fois dans le monde du sport, du spectacle, de la politique, ont du mal à gérer la fin de leur carrière médiatique, hein, c'est difficile. Vous avez un ancien grand footballeur qui s'en sort plus avec la toxicomanie. Il y a un ancien rugbyman qui a descendu sa femme avec un pistolet. Bon, etc. Un ancien boxeur qui a été champion du monde en son temps, qui avait jeté sa femme par la fenêtre. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Je me souviens d'un ancien gardien de l'équipe de France de football qui a eu des problèmes graves avec le banditisme, etc. Enfin bon. Alors, vous voyez, une question que je me pose, je me dis, mais est-ce que même ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de vivre, quoi? Et est-ce qu'une chose comme ça peut remplir une vie? Et si on est un tout petit peu objectif, quand on prend un tout petit peu du recul, on est obligé de dire que ça suffit pas. C'est pas assez. Qu'est-ce qui vaut le coup, finalement? Avant que je connaisse les choses de Dieu, l'Évangile, je vivais pour moi-même, mais je me rendais pas compte que je vivais pour moi-même. Et j'avais l'impression que ce qui donnait du piment à la vie, c'était le plaisir qu'on retirait de ce qu'on faisait dans l'instant présent. Vivre à fond le moment présent. L'expression « vive mon que », ça m'énervait parce que je me disais chaque fois qu'on dit « vive mon que », c'est qu'on n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train déjà de se projeter plus loin. Mais on sait d'avance que quand on sera dans celui qu'on attend, on sera déjà en train de se projeter dans un autre un peu plus loin, quoi. Heureusement qu'on ne vit pas dans les vivements que, sinon la vie passerait en un clin d'œil, on serait déjà à la fin, avant d'avoir vécu quoi que ce soit, parce qu'on serait toujours en avance. Qu'est-ce qui donne, je ne sais pas moi, si on faisait une petite enquête, quels sont ceux qui se disent, la vie que je vis, vraiment ça vaut le coup. Mais dans le monde, autour de nous, je veux dire, ce n'est pas une question à laquelle tout le monde répondra comme ça, aussi facilement, aussi naturellement, hein. Il y a des tas de gens qui aimeraient, ils ont la vie dans laquelle ils sont, et puis ils ont une autre vie un peu virtuelle ou un petit peu souhaitée, un peu souhaitable, et ils sont un petit peu entre les deux, quoi. À la fois dans ce qu'ils vivent, à la fois impliqués aussi dans ce qu'ils espèrent. Alors, bon, de temps en temps, une partie se réalise, mais il y a aussi beaucoup de désillusions, quoi. Qu'est-ce qui vaut le coup dans la vie? On sait que, par exemple, même si on a tous envie de vivre un peu longtemps quand même, hein, bon, mais on sait quand même que ce n'est pas la durée qui justifie. Hein, pour ceux qui lisent la Bible, s'il y en a parmi nous quelques-uns qui lisent un peu la Bible, vous savez qu'un des messieurs dont on parle dans la Bible, un certain Jacob, quand il avait plus de 130 ans, il a dit qu'il estimait que sa vie avait été courte et mauvaise. Vous avez quelqu'un d'autre qui est mort à 33 ans et qui, en mourant, a dit « tout est accompli ». Il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Il avait rempli sa vie. C'est Jésus, hein. Ça, j'ai pas dit son nom, hein. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Beaucoup de gens pensent que le fait d'être connu, ça justifie. Ça donne à la vie un poids, une existence, une valeur, une raison d'être, hein. Alors, vous avez des gens qui se débrouillent pour travailler à ce niveau-là. Ils essayent d'être très, très connus. Bon, par exemple, un couple très, très célèbre, qui est très connu, j'allais dire, partout, hein, grâce aux conséquences de ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est Adam et Ève, par exemple. Hein, très connus, ils ont laissé derrière eux, dans l'humanité, une empreinte indélébile que personne ne saurait nier. Bon... Aujourd'hui, personne ne peut faire plus mal que ce qu'ils ont fait, hein? Parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont légué à tout le monde, merci beaucoup. Mais ça ne suffit pas d'être connu. Vous avez des gens qui ont fait des choses extraordinaires et qui sont restés complètement anonymes. Aujourd'hui, on ne connaît même pas leur nom. Je me souviens du témoignage d'un pasteur qui est en Corée du Sud, à Séoul. Et cet homme raconte comment une dame, une chrétienne comme ça, avait tellement à cœur de le voir, alors que lui, à ce moment-là, était pas du tout, connaissait pas l'Évangile. Elle avait tellement à cœur de le voir changer. Et puis, il était malade. Il avait une maladie pulmonaire. Elle disait, mais Jésus peut vous guérir. Jusqu'à ce que cet homme, à force qu'elle lui ait parlé, un jour, il a décidé de demander à ce Jésus dont elle lui parlait, il a décidé de lui demander de le guérir. Il a été guéri. Et petit à petit, cet homme a eu aussi à cœur de faire connaître Jésus partout. Et des tas de gens aujourd'hui, à travers sa prédication, à travers sa vie, son exemple, la foi que Dieu lui a donnée, aujourd'hui, on compte par centaines de milliers les gens qui sont venus à l'Évangile. Mais j'avoue que j'ai pas retenu le nom de cette dame. Et je pense que très très peu de gens connaissent le nom de cette personne, une dame anonyme, enfin pour nous en tout cas, mais dont l'action a eu un effet extraordinaire sur des tas de gens. Sa vie valait vraiment le coup d'être vécue. Vraiment, je me dis, vous voyez, tout à l'heure je parlais d'exploit, voilà un exploit qui lui a laissé des traces. Peut-être pas dans les manchettes des journaux, mais cette personne a laissé quelque chose. Un des points qui m'a vraiment perturbé quand j'ai commencé à être confronté à l'Évangile, la première fois j'ai vraiment été confronté à moi-même, c'est lorsque je me suis rendu compte, je suis tout à coup devenu conscient que j'étais inutile. Ça m'a frappé comme une claque dans la figure. Vraiment, c'était une grande découverte. Je me suis rendu compte que je servais à rien, que j'étais inutile. Ou à la limite un problème, mais en tout cas, ça construisait rien de positif. Quand je m'en suis vraiment rendu compte, c'était vraiment très désagréable. Je pense particulièrement à des gens qui sont parmi nous, quelques-uns, qui jusqu'à aujourd'hui se disent, on l'a pas demandé. Hein. Encore il n'y a pas longtemps, une jeune fille m'a dit, mais moi j'ai pas demandé à vivre. J'assume la vie, mais je n'ai pas demandé à vivre. Qu'est-ce qui dans ma vie vaut le coup d'être vécu? Alors moi, je lui ai trouvé des tas de trucs parce que je vois des choses, mais ça ne la satisfaisait pas. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui se dit, mais à quoi sert la vie? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais quel est l'intérêt? Quelle est la valeur? Je vais où? Ça sert à quoi? À qui? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore faire ça, ce que je fais là maintenant? Je vais encore le faire comme ça pendant des années? Je vais encore travailler, me lever, pester contre le réveil, et puis après gratter le pare-brise de ma bagnole, et puis aller au boulot, me faire engueuler, revenir à la maison, trouver un repas mal préparé. Et cette personne s'est dit, mais je vais faire ça combien de temps? Combien de temps je vais arriver au 31 décembre en me disant, mais cette année, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres années? Qu'est-ce qui s'est passé qui est mieux? Et qu'est-ce qui peut surtout me faire croire que l'année prochaine risque d'être meilleure? Alors évidemment, quand vous commencez l'année comme ça, ça vous donne pas d'enthousiasme. Hein, bon, à la rigueur, on peut se jeter sur la dinde, mais c'est vrai que ça résout pas tout. Alors, je voudrais vous lire un texte. Donc ça, c'est dans... Maintenant, on est dans l'Évangile. Hein. Au chapitre 1er, dans l'Évangile de Luc. J'aimerais que vous me donniez un tout petit peu de patience pour que je vous lise un passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, et au verset 26. Comme ça, je vous lis un petit bout, et puis après, quelques petits commentaires. Ça vous va? Alors, on y est. Alors, au sixième mois, voilà que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, ça se trouve donc en Israël, hein, une ville qui s'appelait Nazareth, hein, auprès d'une jeune fille qui était fiancée à un homme de la descendance du roi David. Il s'appelait Joseph. Le nom de cette jeune fille était Marie. L'ange est entré chez elle et lui dit « Bonjour, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Étonnée par cette parole, Marie se demandait qu'est-ce que ça pouvait bien dire, une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voilà ce qui va t'arriver, tu deviendras enceinte. Tu vas avoir un fils et tu l'appelleras Jésus. Ce sera quelqu'un de très important. Et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur toute la tribu de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment est-ce que ça peut arriver? Je n'ai de relation conjugale avec aucun homme. » Mais l'ange lui dit, « Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi. C'est la puissance du Dieu Très-Haut qui va te couvrir de son ombre. Et c'est pour ça que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et tu sais, Élisabeth, ta parente, elle a conçu aussi un fils, malgré sa vieillesse. Et celle qu'on appelait stérile est enceinte depuis 6 mois. Parce que rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie a dit, « Eh bien, me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'arrive tout ce que tu as dit. » Et l'ange la quitta. Et cette jeune fille appelée Marie, bien sûr, est connue. Et je me dis, voilà, si on parle de vie qui vaut le coup d'être vécue, je me dis, voilà une vie qui valait la peine d'être vécue. Voilà une jeune fille qui, jusqu'à ce jour-là, n'avait pas une conscience particulière d'être appelée à quelque chose de très spécial. Et le fait, l'intrusion d'un ange chez elle l'a très surprise. Elle était surprise d'abord, je pense, plus par sa présence que par ce qu'il a dit. D'abord, elle se croyait chez elle toute seule. Imaginez, on est tous comme ça quand même. Vous êtes chez vous, vous avez fermé la porte, tout d'un coup, il y a quelqu'un. Avant même qu'il ait dit quelque chose, vous êtes surpris quand même. Hein? Donc, elle était surprise. Elle se dit, mais qui c'est? Alors, maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle apparence avait cet ange. Parce que souvent, les anges... Je pense que dans le ciel, ils sont très glorieux, mais souvent, ils ont une apparence qui est tout à fait conforme à notre nature. Beaucoup de personnes ont vu des anges et ont mis tout un temps avant de comprendre, et quelquefois même seulement rétrospectivement, à comprendre qu'il s'agissait d'un ange. Alors elle, et à mon avis, c'est un peu ce qui lui est arrivé, parce qu'elle s'est plutôt étonnée après de ce qu'il disait, et plutôt que du fait d'avoir la visite d'un ange, enfin bon. Alors, elle était étonnée d'une forme de salutation dont elle se demandait qu'est-ce que ça peut bien dire, qu'est-ce qu'il me raconte. Et cet ange lui a annoncé qu'elle allait être enceinte. Et si Marie, par la suite, a demandé un peu des explications, c'est pas parce qu'elle doutait, mais c'est parce qu'elle savait qu'elle était dans une situation où c'était complètement impossible. C'est une jeune fille qui était pure. Rien que ce mot de pureté, le fait que c'était une jeune fille, une vraie jeune fille, une jeune fille pure, est intéressant. Et je trouve que c'est intéressant de souligner ce fait dans aujourd'hui une société qui a un petit peu oublié des valeurs d'éthique, des valeurs de comportement, des valeurs de maîtrise de soi, des valeurs de pureté. C'est un peu difficile. Et tout à l'heure, dans une des paroles qui a été donnée par quelqu'un de la part du Seigneur, il y avait quelque chose qui m'a fait un peu penser à ça. Une notion de pureté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui était particulièrement face à ces notions de lumière et de ténèbres. Et quand je crois que Tant qu'on n'est pas rentré dans la lumière, dans les ténèbres, j'allais dire, la lumière, ça fait presque peur. C'est une notion qui est même difficile à comprendre. Hein. Moi, j'avais de la peine à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Hein. Des notions de pureté, de mise à part. J'allais dire que même tout ce qui m'aurait fait parler de lutte contre le péché, de sanctification, ça me paraissait être des contre-valeurs. Ça m'aurait fait peur. J'aurais pensé que vivre avec des choses comme ça, c'est être forcément restreint, c'est être empêché de vivre, c'est être dans une sorte de prison, c'est être dans des lois, c'est être enfermé en quelque sorte. Et je crois que c'est normal que quelqu'un se sente mal à l'aise face à cet appel à venir à la lumière. Mal à l'aise par rapport à cet appel à sortir de l'ombre, à sortir des ténèbres. Parce que comme c'est son monde, il s'y trouve bien. Et les papillons, quand ils se mettent à tourner autour de la lumière, en fait, ils sont comme... Enfin, l'impression que j'ai, hein, je suis pas un grand biologiste, mais j'ai l'impression que c'est comme s'ils sont attirés par la lumière, mais en fait, la lumière est trop forte pour eux, ils distinguent pas. Et finalement, ils sont là, ils tournent bêtement autour d'une lampe, d'une bougie, je sais pas quoi, finalement, ils vont se griller, ils vont mourir. Et quelqu'un peut avoir peur de la lumière parce qu'il a peur de quelque chose qui est contraire à sa nature. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur nous a donné des exemples de gens qui ont vécu avec lui, qui ont vécu pour lui, qui ont vécu en lui, dont la vie valait le coup. Des gens dont la vie valait la peine. Des gens qui ont laissé quelque chose derrière eux. Des gens qui ont laissé une trace derrière eux. Des gens qui ont su pourquoi ils étaient sur la terre. Des gens qui ne pouvaient pas passer des années d'un 31 décembre à l'autre, en se demandant, mais qu'est-ce qu'il fichait ici? Et voyez, une jeune fille comme ça, ça c'est un bel exemple. C'est une jeune fille qui marchait avec le Seigneur. Elle faisait ce qu'elle avait à faire au jour le jour. Et puis un jour, le Seigneur l'a appelée à quelque chose d'autre. Parce que l'état de son cœur était tel. Parce qu'elle était capable de rentrer dans ce plan de Dieu. Elle a demandé des explications, et l'ange lui dit, oui, c'est normal. Parce que même si à l'époque, on n'était pas très fort en génétique, hein, à ce moment-là, on savait quand même qu'on n'attrape pas un bébé en regardant un garçon dans les yeux dans l'ascenseur, hein, c'était déjà connu. Elle savait ça. L'ange lui a dit, c'est Dieu qui va le faire. Il va te couvrir de son ombre. Hein. C'était pas nouveau ça comme image. Même dans le livre de l'Exode, vous avez ça au chapitre 40 au verset 35 qui dit que la nuée ombrageait la tente de Moïse. La notion de la puissance du Saint-Esprit qui descend, c'est pas le seul endroit non plus. Dans le livre des Actes, tout de suite après aussi, il dira le Saint-Esprit qui descendra, la puissance qui descendra sur vous comme elle est descendue ici sur Marie. Je crois pas que Marie, à travers ce que l'ange lui a dit, à travers ce seul passage, pouvait vraiment savoir que c'est le Messie dont elle était la mère biologique. Fils de Dieu, fils du Très-Haut, Jésus, je ne sais pas si ça désignait si proprement, à proprement parler le Messie, mais elle savait qu'elle était en train d'entrer, de jouer un rôle formidable. Et je voudrais dire à chacun d'entre vous, tu as un rôle à jouer, un rôle formidable à jouer. Seulement ce rôle se joue dans la lumière. Ce n'est pas un rôle que tu peux jouer dans les ténèbres. Quand tu joues dans les ténèbres, tu joues pour toi. Quand tu sors des ténèbres, tu rentres dans la lumière, tu joues pour Dieu. Et j'ai la prétention d'apporter une réponse à ceux qui se demandent qu'est-ce qui fiche bien sur la terre. Je voudrais vous dire que tant que vous voudrez vivre pour vous-même, vous ne trouverez jamais la réponse. Parce que personne d'entre nous n'a été créé, personne n'a été fait pour vivre pour lui. Et tant qu'on cherche la réponse en soi, tant qu'on la cherche pour soi, même si on est capable de mettre des buts très élevés, on peut vivre pour soi et faire toute sa vie dans l'humanitaire. On peut vivre pour soi et se donner dans des œuvres. Parce que c'est très gratifiant de faire du bien. C'est vachement gratifiant de se dire qu'on est quelqu'un de bon. Non ? Alors vous avez des gens qui ont décidé de travailler pour leur épanouissement, pour leur plaisir, pour eux-mêmes, en faisant quelque chose pour les autres. Finalement, ils sont toujours en train de chercher à continuer à satisfaire l'image de marque qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça peut être complètement égoïste. C'est encore seulement une recherche de soi, seulement avec des valeurs qui sont plus nobles. Je ne sais pas ce que ça veut dire, noble, hein. C'est encore un mot bien, bien humain, ça, hein. Moi, quand j'étais en, je crois que c'était en sixième, l'éducation nationale nous faisait étudier le CID. Et j'ai toujours trouvé, je m'excuse pour son auteur qui, bon, ne m'en voudra pas, mais j'ai toujours trouvé cette pièce complètement, enfin, je dirais pas le mot qui me vient à l'idée, mais enfin, j'ai trouvé bête, quoi. Parce que la seule valeur qui est mise en avant, c'est l'honneur personnel. Et je dis, quand une société fonctionne en mettant l'honneur de soi-même au-dessus de tout, ben vraiment, on est mal barré, hein. C'est idiot. Ça satisfera jamais personne. Personne ne sera jamais bien avec des valeurs pareilles. C'est complètement égocentrique. C'est virtuel. Ce que l'Évangile nous propose, c'est de nous donner. Ce que l'Évangile nous propose, c'est autre chose. Et c'est pour ça que Marie a donné un exemple extraordinaire, parce que quand elle a compris ce que l'ange lui disait, elle a dit, « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » C'est-à-dire, je me soumets au plan de Dieu pour ma vie. Et elle a dit, « Eh bien, d'accord, qu'il m'arrive tout ce que tu as dit. » Vous voyez, sa réponse, c'est pas une espèce de souhait vague, bon, ben, qu'il me soit fait, comme si c'était quelque chose d'incertain. Non, non, c'est quelque chose de positif. Elle déclare qu'elle entre elle-même positivement, activement. Elle rentre dans le programme. Et du reste, je pense que c'est ce que Dieu attendait d'elle. C'est pas pour rien que Dieu lui a envoyé un ange pour lui annoncer le programme. Dieu ne l'aurait pas fait avec quelqu'un qui ne l'aurait pas voulu. Dieu travaille avec des personnes qui ont envie. Quand Dieu a délivré le peuple avec Moïse, il s'est présenté à lui et Moïse avait la responsabilité de dire oui, de dire non. Moïse a dit la même chose que Marie à la fin, il a dit « me voici ». Quand Dieu a voulu travailler avec Abraham, il lui a donné un choix. Et quand Dieu a demandé à Abraham le plus difficile, il lui a demandé même son fils, Abraham a dit « me voici ». Et Marie a dit « me voici ». Elle aurait pu dire non. Attendez, elle avait gros à risquer dans cette histoire, hein. Parce que être enceinte sans être mariée, c'était pas quelque chose de neutre. On n'était pas dans une société de liberté comme on est aujourd'hui. Elle risquait gros. Et du reste, quand son fiancé a appris qu'elle était enceinte, Joseph, alors lui, il a été scié, hein. Il était. Alors là, lui, ça l'a démonté. Là, il s'y attendait pas. Il dit. Un coup pareil, là, il a dit, j'ai pris un coup derrière les oreilles, c'est terrible. C'est qui lui a dit, ben, c'est elle, bien sûr. Et il a décidé, au lieu de la traîner en procès, de lui intenter quelque chose contre elle, c'est pour ça qu'il a décidé de rompre secrètement, c'est-à-dire, il a dit, bon, ben, je la laisse tomber, puis c'est tout. Mais enfin, il était, le pauvre, il était cassé, quoi. Alors, il a fallu que l'ange vienne le voir, il dit, non, mais attends, ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Il a dit, hein, comment le coup de... Enceinte, comme ça, avec... Oui, l'ange a dit, si, c'est normal, c'est comme ça. Ah, bon. Alors après, bon, ils sont repartis ensemble. Mais enfin, remarquez que hein, c'est quand même... C'est pas facile à croire non plus, hein. Là, il a fallu des preuves, hein. L'ange a dit à Marie, c'est pour ça aussi que Jean-Baptiste était né 6 mois avant, hein. Enfin, avait été conçu 6 mois avant. Et l'ange a dit à Marie, tu sais, ta cousine, Élisabeth... Hein, celle que tout le monde appelait stérile. L'ange dit pas seulement celle qui était stérile, il dit celle qu'on avait appelée stérile. L'ange mettait l'accent sur toutes les humiliations qu'Élisabeth a subies. On l'appelait la stérile. C'était humiliant dans une société où c'était très difficile à supporter. Vraiment, Élisabeth, elle en a bavé. Mais l'ange lui dit, tu sais, maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Et second a traduit par le présent, mais en fait, c'est un futur car rien ne sera impossible à Dieu. C'est-à-dire, l'ange est en train de lui dire, tu vois, ce que je te dis, la preuve que ça peut arriver, c'est qu'il est arrivé quelque chose d'également impossible à ta cousine non plus, à son âge, hein. Il y a longtemps que, hein, elle avait fini, hein. Mais maintenant, elle est enceinte. Et ce que je te dis, c'est réalisé pour elle, et ça va se réaliser, ce que je te dis va se réaliser aussi pour toi. Bon, Marie a dit, ok. Ce que je voudrais vous dire, c'est que une telle phrase comme ça, une simple phrase comme ça, c'est une phrase qui prouve la valeur de quelqu'un. C'est une phrase qui souligne qu'on a là une jeune fille qui savait pourquoi elle vivait, qui avait un but dans sa vie. Elle avait un objectif, elle avait une valeur personnelle, elle avait une raison de vivre. Et je ne voudrais pas que personne puisse sortir d'ici sans se dire « je sais pourquoi je suis là, je sais à quoi je sers ». Et la réponse, elle vient à partir du moment où tu laisses Dieu te montrer la raison pour laquelle tu es sur la terre n'est pas à te chercher en toi-même. Elle est à chercher dans l'amour que tu vas avoir pour les autres. Elle est à chercher dans l'amour que tu vas avoir pour Dieu qui t'a créé. Elle est à chercher dans le service que tu vas rendre à Dieu. C'est seulement au moment où tu dis sincèrement à Dieu, « Me voici, je suis ton serviteur. Accomplis en moi ta parole. Accomplis en moi ton projet. N'ayez pas peur. » Dieu ne vous appelle pas pour vous tendre un piège. Dieu ne vous appelle pas pour qu'une fois que vous aurez signé en bas de la page, il dit « Ah, maintenant je te tiens !» Dieu t'appelle pour te changer, pour te faire du bien, pour t'aimer. Le seul épanouissement, la seule vraie vie, c'est Jésus-Christ qui lui donne son sens. Je voudrais inviter quelques personnes qui sont dans ce cas, des gens qui se demandaient avant d'entrer dans cette salle qui ils étaient, à quoi ils servent. Des gens qui se sentaient bien cachés dans une pénombre. Des gens qui se sentaient dans leur milieu, dans quelque chose dont aujourd'hui, maintenant même, ils savent que ça fait partie des ténèbres. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Ne crains pas. Décide de sortir maintenant. Viens à la lumière. Viens, sors, sors. Sors maintenant. Dis au Seigneur que tu sors. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens vers toi. Je ne me sens pas du tout pur. Je ne me sens pas net. Je ne me sens pas du tout comme cette personne dont on a parlé ici, cette dame, cette Marie. Je ne me sens pas comme elle. Mais je viens vers toi. Je veux que tu me changes. Je veux vivre vraiment. Je ne veux plus survivre. J'en ai marre de me chercher. J'en ai marre de vouloir me faire du bien. J'en ai marre de vouloir m'éclater. Mais je veux vivre vraiment. Au nom de Jésus, je vous prie de dire ces quelques mots au Seigneur. Je vous en supplie. La Bible dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Maintenant, dites-lui, Seigneur Jésus, je veux être changé. Je veux être pardonné. Je veux que le sang de Jésus vienne en moi. Je veux que tous mes péchés soient lavés, disparaissent. Seigneur, avec ton aide, je vais être un chrétien. Je vais vivre avec toi. Je vais vivre pour toi. Seigneur, tu vas m'aider. Merci Seigneur.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Écoutez, respirez, vivez, Phare FM.
It's hard for me to believe that I've got nothing to prove. I thought this dirt on my hands was gonna keep me from you. I fall as much as I rise. Feels like my walk is a crawl. When I'm alone in the night, won't you leave? Change time.
sur Phare FM, Whatever It Takes, Stephen Stanley. Et on va poursuivre dans les langages de l'amour. Le thème est, tout à l'heure, réagir à un conjoint injurieux. Avant cela, de la musique, Antonio Neal, Things Will Get Better. Et maintenant, Marshmallow, Dreaming. Merci de rester avec la radio Autrement. Très bonne écoute.
My love, as the days get longer, will you follow me, never let me go? Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round.
When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah.
We'll keep dancing, dancing as the world turns round and round and round and round. Longer, I will follow you, never let you go.
Yeah, I keep dreaming.
See that you're more than Lord.
chances. Yeah. It's up to you, it's up to you. Nothing can hold you down. Left out from the crowd. So it's up to you, it's up to you, it's up to you. No matter what you face,
no matter what you say,
lift your head and say,
things will
get better.
Everybody say it out,
things will get better.
Don't stop until you see it through. Just go,
just go,
go,
just go.
Keep on moving,
keep
forward
on.
There are dreams and plans for you. Don't stop until you see it through. Just go,
just go,
go,
just go.
Keep on moving forward.
De l'amour.
Si vous vivez avec un conjoint qui profère des injures, il vous faut une stratégie de repli qu'il faudra partager avec lui. Essayez ceci. Je veux te partager une décision que j'ai prise. Je t'ai dit par le passé à quel point j'étais blessé quand tu t'en prends à moi avec des critiques cinglantes. Il me faut des jours et parfois des semaines pour passer par-dessus tes mots et calmer ma douleur. J'ai décidé que la prochaine fois que tu perds ton sang-froid, j'irai passer quelque temps loin de toi pour guérir. Je pense que je guérirai plus vite si nous ne sommes pas ensemble. Je ne t'abandonne pas, mais je veux réajuster notre relation qui était devenue un modèle destructeur. Je ne survivrai pas indéfiniment à tes attaques verbales. Je ne veux pas croire que c'est la personne que tu désires être. Je te partage ces choses parce que je crois en toi et désire que tu deviennes la personne que tu veux être. Il se peut qu'il se fâche ou qu'il se mette à pleurer. Il faudra qu'elle suive simplement ce plan. La prochaine fois qu'il explose, elle communique clairement ceci. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Elle agit de façon positive.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Maudit de Chicago, en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, au-delà de la musique. Écoutez.
In a foreign field. naked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary.